réplique Les changements de Paris avec David Chanterane et Jonathan Sixou. Pour parler de Paris, avec l'historien David Chanterane et le journaliste Jonathan Sixou, qui a publié récemment « Rayer de la carte sur la trace du Louvre oublié », je commencerai par une réflexion très générale du grand philosophe du printemps de Prague, Karel Kosik. La dominante de la ville a pu être autrefois l'acropole, la cathédrale, le château, l'hôtel de ville ou le théâtre. À notre époque, écrit Kosik, ce qui domine, c'est la permanence du mouvement compris en tant que circulation. Tout est subordonné au transport et doit lui servir. C'est le maître en marche et le souverain devant lequel tout s'efface, la nature, l'histoire, les monuments, la morale, pour libérer le passage à son expansion, son expédition victorieuse. Fin de citation. Cette description s'applique parfaitement au Paris pompidolien et à ses voies sur berge. Mais aujourd'hui, tous les grands chantiers parisiens semblent n'avoir qu'un but. Décourager les automobilistes, multiplier les obstacles à la circulation, paralyser le transport. À mes deux invités, je voudrais donc demander comment ils interprètent cette politique. Sommes-nous en train de changer de paradigme à l'image d'autres villes dites mondiales? Et sous l'impulsion d'une mère très déterminée, Paris choisit-il de s'émanciper du maître omniprésent de l'époque moderne, dont Kosik nous dit encore qu'il dégrade, avilit et abaisse la rue, la met au rang d'une simple voie de passage, d'une surface de dépôt et stationnement des véhicules? Et quelle serait dans ce cas la nouvelle dominante, Jonathan Sixou?
La nouvelle dominante de ce changement de paradigme serait peut-être de nouveau la paralysie, ou en tout cas un certain blocage tel que pouvait le connaître la rue médiévale, la rue même d'une époque moderne, où avant qu'on élargisse les voies, avant que les appartements aient un minimum de commodité, on vivait dans la rue. La rue qui accueillait également une quantité de métiers de rue, des gens qui fuyaient la promiscuité de leur demeure, qui vivaient dans l'espace public. Je passe les détails même des véhicules qui étaient tirés par des animaux ou poussés par des chevaux, ou l'inverse.
Mais quand vous dites la nouvelle dominance, c'est le blocage. Non, c'est pas ce à quoi aspire la maire de Paris.
Vraisemblablement non.
Qu'est-ce qu'ils veulent?
J'aurais beaucoup de peine à me faire le porte-parole du maire de Paris et de vous dire ce à quoi elle aspire. Si ce n'est ce qui, à mes yeux, motive cela, qui est une volonté politique. Une idéologie politique motivée par le divertissement. Aujourd'hui, la rue ne sert plus peut-être à circuler, précisément, pour reprendre votre lancement, mais sert à s'amuser, sert à se divertir, sert à faire du vélo en famille, du roller dès le plus jeune âge, etc. Sert à pique-niquer. Je pense que ce à quoi on nous demande d'aspirer, nous, habitants de la grande ville moderne, ce n'est plus aller vite d'un point à un autre, c'est dans cette tendance de la vie lao, comme le slow food, etc. Peut-être que c'est ça à quoi on nous demande d'aspirer désormais, et peut-être que la rue, donc aujourd'hui, désormais, n'est plus la vitesse, n'est plus le déplacement, mais un retour, d'une certaine façon, c'est pour ça que je le disais comme ça, un retour à ce qu'elle était il y a un certain temps, à savoir un lieu de vie, certes, qu'elle avait perdu, qu'un statut qu'elle avait perdu à l'époque pompidonienne, précisément. Mais cela ne va pas sans poser quelques problèmes quotidiens.
David Chanterane.
C'est un peu ce que nous voyons du temps de la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté, comme vous le disiez, d'accélérer, de permettre aux personnes qui souhaitent échanger, qui souhaitent s'engager dans de grandes actions à la fois économiques et sociales, cette volonté d'ouvrir d'accélérer, de changer, de faciliter les transports pour que justement un entrepreneur qui se trouverait par exemple, qui habiterait à Montmartre par exemple en 1860, lorsque la commune vient de rentrer dans Paris, eh bien que cet habitant de Montmartre puisse tout simplement communiquer avec un ébéniste du faubourg Saint-Antoine et qu'en plus, dans la même journée, il puisse s'engager avec son banquier. Eh bien, tout cela a été rendu possible sous Napoléon III. Et aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, c'est une volonté inverse. C'est-à-dire que la rue est devenue, d'une certaine manière, un lieu de complexification, où on ne cherche pas justement à simplifier, mais au contraire à rendre différent une vie qui est beaucoup plus complexe.
Mais alors, je me ferai là l'avocat des élus parisiens et d'Anne Hidalgo. Ce sont les écologistes qui mettent en œuvre cette politique, et ils le font précisément pour préserver l'environnement, disent-ils. Il y a trop de voitures, cela met en péril notre environnement, justement. Il faut faire quelque chose, et c'est la raison pour laquelle on décourage les automobilistes. Donc si changement de paradigme il y a, c'est pour des raisons liées à l'écologie. Que pensez-vous de cet argument, David Chanterane ?
C'est un argument qui était déjà dans l'air du temps à la fin du XVIIe siècle. On cherchait justement à accélérer le mouvement pour que on puisse vivre non pas enfermés les uns sur les autres avec tout ce que cela comporte de difficultés dans l'accumulation et dans les étages qui sont les uns sur les autres, mais au contraire de pouvoir vivre à l'extérieur de la ville, extramuros d'une certaine manière. Et alors là, cette fois-ci, c'est l'inverse. On se dit, parce que les gens fuient et s'installent à la fois, on n'appelle plus ça la province, on appelle ça la région maintenant, mais vivent en région et s'installent hors les murs, et bien d'une certaine manière, on essaie de les faire revenir. Et pour les faire revenir, on essaie de trouver un cadre. Mais c'est un peu aller à l'envers. C'est aller à l'inverse d'un mouvement qui est celui que nous connaissons dans les grandes villes, dans les grands centres urbains du monde. Donc d'une certaine manière, Paris est en train de prendre le contre-pied.
Pourquoi le contre-pied des autres centres urbains du monde ?
Idéologiquement, et parce que on est dans une logique qui est le non-voiture. On était dans le tout-voiture, vous le disiez, du temps de Pompidou, du temps de la fin du général de Gaulle. On se souvient du grand rêve qu'avait Le Corbusier de vouloir détruire quasiment le centre de Paris pour pouvoir avoir un lieu qui soit une sorte de nouvel Haussmann. Et bien là, cette fois-ci, c'est tout à fait l'inverse.
Et vous pensez que dans les autres villes du monde, cette aspiration à dépasser la voiture ou à marginaliser la voiture n'existe pas autant
bien
qu'à
sûr.
Paris?
Allez, ne serait-ce qu'à Mexico, rendez-vous à New York, ça n'est pas du tout le cas. C'est la même chose en Asie, c'est la même chose en Amérique du Sud. Si vous allez par exemple à Buenos Aires, vous avez exactement la même situation où on cherche à accélérer le mouvement et non pas le ralentir.
Oui, quand vous dites New York, quand même, à New York, il y a très peu de voitures et énormément de taxis.
Oui, quand même. Mais quand même. Oui. Les taxis peuvent travailler.
Oui, les taxis peuvent travailler. Jonathan Sixon.
Il y a également ce à quoi, pour rebondir sur ce que disait David Chandran, c'est ce à quoi correspondent les changements d'une ville. Jusqu'à présent, me semble-t-il, les changements d'une ville, les métamorphoses d'une ville étaient la résultante d'une nécessité urbaine, une politique urbaine. On en parlera peut-être avec Napoléon Ier et Napoléon III également, qui s'inspirent ailleurs. Mais on veut transformer, on veut changer pour un mieux. Et un mieux qui est matérialisable à travers des changements, des modifications. J'ai du mal, à titre personnel, à voir vers quel mieux les changements qu'on impose à Paris et à d'autres, peut-être d'autres grandes villes
donc
de France.
Donc ce serait plutôt un changement idéologique qu'un changement nécessaire.
Je vois ce changement-là, exactement. Aujourd'hui, la motivation serait la justification idéologique plutôt qu'une justification.
Oui, mais on vous dirait, le mieux, c'est par exemple mieux respirer.
C'est ça, quand même.
C'est ça.
Oui,
mieux.
Mais
respire mieux dans les embouteillages. Peut-être que les embouteillages sont un moment à passer avant que les automobilistes n'abandonnent le combat.
À ce moment-là, on réalise le rêve d'Alphonse Allais de construire les villes à la campagne parce que l'air y est plus pur.
C'est
là aussi où il y a une contradiction dans la politique même. Voulu par
vous parliez l'un et l'autre justement des changements qui ont eu lieu à Paris à partir de la fin de l'Ancien Régime. Des changements liés justement au transport, pour reprendre la réflexion de Karel Kosik. Donc, pour que ça circule mieux. Alors, arrêtons-nous un instant justement aux réformes engagées sous Napoléon, dont vous êtes le spécialiste, David Chantran, et sous Napoléon III. Que s'est-il passé dans ces deux grands moments de l'histoire de Paris, David Chantran?
Dans ces deux grands moments, Napoléon Ier, comme Napoléon III d'ailleurs, puisque Napoléon Ier est vraiment un précurseur dans ce sens-là, et on l'oublie tout simplement, parce qu'on parle souvent du Paris d'Haussmann, en oubliant ce qui était fait à la fin de la Révolution et au début donc du XIXe siècle, on oublie que Napoléon s'est voulu le continuateur de ce que le nôtre avait fait avec cette grande percée que l'on connaît bien aujourd'hui, qui s'appelle les Champs-Élysées. Cette grande percée en direction de Saint-Germain était véritablement une ouverture de la ville. Et cette ouverture de la ville, elle permettait d'accélérer le mouvement lorsque l'on venait soit de Versailles, soit d'autres lieux. Napoléon va faire la même chose. C'est-à-dire qu'il va ouvrir, de grands axes. Et ces deux grands axes, eh bien, il le fait comme les faisaient les Romains à l'époque de l'Antiquité, c'est-à-dire le Cardo et le Decumanus. Ces deux grands axes perpendiculaires. Et pour ce qui concerne Napoléon, il va faire ce que n'avait jamais osé faire avant lui Louis XV et même Louis XVI surtout, qui n'avait pas eu le temps peut-être de l'engager, c'est de faire ce grand axe que nous connaissons sous le nom de rue de Rivoli. Cette rue de Rivoli, c'était le grand vœu qui permettait de relier à la fois la Bastille et la place de la Concorde, que nous connaissons aujourd'hui, et de l'autre, d'avoir cet autre axe qui va être ensuite achevé par Napoléon III avec bien sûr le concours d'Haussmann, ce grand axe qui est le boulevard de Strasbourg, boulevard de Sébastopol, en partant déjà de la rue de Rennes. Et ces deux grands axes qui se croisent en un centre qui, d'une certaine manière, pour faire simple, c'est le Châtelet-Léal, eh bien, ce grand axe est voulu par Napoléon et va être poursuivi par son neveu.
Donc, le neveu est le continuateur.
Exactement.
Du premier empereur.
Et ça va s'ajouter à toute une politique à la fois d'hygiène, de circulation, d'égouts, puisque les premiers égouts vont dater de 1808-1810 sous Napoléon Ier. Et ces grands axes vont également s'accompagner d'un mieux-être. Et c'est ça ce que l'on disait déjà au départ, un mieux-être avec des possibilités de circulation protégées. C'est pour cette raison que la rue de Rivoli a ses arcades qui font penser à Turin et à ces villes du nord de l'Italie. Donc c'est un mieux-être parce qu'on prend chez les autres, on prend dans les expériences des autres, ce qui convient à la ville de Paris et à son climat, et également, ce qui est très important, surtout à la culture française. Et donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcer la population dans un sens que l'on souhaite idéologique, mais au contraire on s'adapte à ce que la population recherche.
Et s'inspirer de l'étranger, c'est aussi ce que fait Napoléon III. C'est aussi ce que fait Napoléon III en important d'une certaine façon, mais en l'adaptant à la topologie de Paris, des grands squares, des petits squares de quartier, des bois à proximité de la ville pour justement donner de l'air frais, du bon
il
air.
Il l'emprunte
à New York. Napoléon III, avant d'être président de la République et avant d'être empereur, est quelqu'un qui passe une bonne partie de sa vie en exil et ou à voyager. Et donc, il sait ce qui se fait. Il sait ce qu'est la modernité de ce point de vue-là. Et il sait que un peuple bon pour ses dirigeants est un peuple qui certes a des jeux et du pain, mais a également une fenêtre qui s'ouvre sur de l'air pur pour ventiler sa chambre et peut avoir un des prémices de tout à l'égout, etc. C'est ça aussi qui fait que Napoléon III, de ce point de vue-là, est éminemment humaniste.
D'autant que nous vous parlons d'un temps, évidemment, où les congés n'existent pas et où les populations, notamment ouvrières, sont obligées finalement de vivre dans les lieux même où elles travaillent. Donc elles se trouvent dans un lieu qui est embué, qui est pollué et dont il faut trouver justement des aérations. Et ces temps d'air pur, eh bien, on va les trouver dans des petits squares. Montsouris va être construite à cette époque, Montsou évidemment. Donc, dans les lieux, finalement, où se trouvaient autrefois les murs des fermiers généraux. Et bien entendu, ce grand parc que nous connaissons de part et d'autre de Paris, avec le bois de Vincennes d'un côté, le bois de Boulogne de l'autre, et ce grand parc qui va être construit, qui est les buttes-chaumont, qui sont faits dans cet esprit-là, à la fois hygiéniste, à la fois d'acclimatation, parce que c'est aussi un cas d'acclimatation de certaines essences d'arbres, et puis surtout un lieu de promenade, un lieu de villégiature qui est finalement qu'on apporte aux Parisiens alors qu'on ne leur fait pas rêver autre chose.
Et la beauté, c'est ce que je voulais ajouter. Par exemple avec les buttes Chaumont, c'est la beauté qu'on construit comme avec Monceau, même s'il y a des origines plus anciennes pour le parc Monceau, mais c'est offrir de la beauté publique, entre guillemets.
Beauté publique, oui. Également donc un peu d'air pur avec de grands axes, mais à l'époque, rappelons-le, il y avait des fiacres, il n'y avait pas de voiture. Donc le problème se pose forcément en termes différents. Mais je voudrais en rester un instant à Haussmann. Jonathan Sixou, et citer un beau passage de votre livre. Haussmann, à l'insigne honneur, dites-vous, d'avoir le beau et le mauvais rôle. Celui d'avoir fait d'une ville vétuste une capitale moderne, et celui moins brillant d'avoir détruit, rasé, éclipsé ce qui en faisait son charme et ses mystères. Et c'est d'ailleurs à la poursuite de ce charme et de ce mystère que vous allez dans le livre que vous a intitulé précisément « Rayé de la carte ». Donc, dites-nous-en un peu plus sur cette ambiguïté
sur
du changement.
Sur cet extrait précisément, effectivement, pour la mémoire des Parisiens, la mémoire partagée. Le Haussmann est celui donc qui modernise, qui transforme Paris, qui fait de la ville dans laquelle nous vivons une ville qui pourrait continuer d'accueillir une humanité qui se développe d'une façon ou d'une autre au fil des générations. En cela, on lui est reconnaissant de faciliter jusqu'à peu la circulation, de généraliser les égouts. Il faut imaginer toute l'infrastructure souterraine que les Parisiens ne voient pas. Et il y a également, ce qu'ils auraient été regrettés de tous les contemporains, qui est les travaux monstrueusement gigantesques et interminables de ces travaux haussmanniens, les destructions que ça nécessite, et tout un pan d'une mémoire parisienne, tout un pan d'une mémoire des Parisiens qui s'effondre sous leurs yeux. Mais quand on regarde ces sublimes, merveilleuses photos de Marville ou d'Adjet, qui va, avant ses grands travaux, au petit jour, photographier les rues quand elles sont désertes, pour avoir une trace, une mémoire visuelle de ces façades, de ces rues, de ces pavés, etc. C'est merveilleux, ce sont les mystères de Paris, ce sont les charmes de Paris que j'évoque dans ces mots. Mais très honnêtement, c'était invivable. Vous ouvriez vos fenêtres, vous pouviez tendre, vous serrer la main à votre voisin dans l'immeuble d'en face. C'était d'imaginer la circulation. Regardez, et ça, on peut même faire un bond dans le temps. Regardez à quoi ressemblent les rues du Marais aujourd'hui, le week-end, avec l'afflux de touristes. Vous ne pouvez pas marcher normalement, vous marchez au pas. Donc imaginez la sublime île de la cité avec ses dizaines de clochers, ses chapelles, ses immeubles à colombages merveilleux. Mais qu'il a fallu, c'était une nécessité pour faire de Paris ce qu'est encore Paris, eh bien de raser ce genre de souvenirs.
Il n'empêche, vous citez ces vers fameux du poème de Baudelaire, Le Cygne, le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel.
Baudelaire écrit ces vers dans Le Cygne, il écrit sur son poème, il est assis au cœur de la cour du Louvre. Je m'intéresse dans Rayé de la carte à cet arasement du vieux quartier du Louvre qu'on peut grosso modo circonscrire à la cour Napoléon d'aujourd'hui, où se trouve la pyramide de verre. Et Baudelaire, lui, connaissait ce vieux quartier du Louvre, qui était un quartier millénaire dans Paris, rasé qui s'effondre au fil des siècles, fini d'être totalement rasé sous le Second Empire et avant même l'arrivée d'Haussmann. Et Baudelaire ne peut constater que cette grande cour glaciale au pied des palais du pouvoir. Et c'est ce merveilleux poème et cette formule que tout le monde connaît.
Maintenant, je voudrais en venir à une transformation de Paris sous l'action de présidents bâtisseurs, et notamment François Mitterrand. Que penser de tous ces monuments, de tous ces édifices qui ont un peu changé la physionomie de Paris, l'Opéra Bastille, la très grande bibliothèque, le centre Beaubourg, l'Arche de la Défense, voilà. Il n'y avait pas que le transport, ni que la lutte contre le transport, il y a eu tous ces monuments. Quel bilan peut-on en tirer aujourd'hui, David Chanterane?
Le bilan, il est le même que sous Napoléon, tout simplement. C'est-à-dire que la volonté politique est la même. C'est-à-dire que, à l'époque, on n'a plus les moyens de faire de l'urbanisme à grande échelle, comme l'avait fait à la fin du XVIIe siècle Louis XIV pour Paris, même s'il s'y intéressait un peu moins, alors que c'était plutôt le rôle de Colbert à l'époque. Donc, pour ce qui concerne François Mitterrand, il va égrener ici ou là. On a parlé de la pyramide de verre. On pourrait évoquer d'autres lieux dans Paris qui vont être marqués de son empreinte, en particulier la Bastille, qui était un lieu, on sait bien, de départ des Parisiens vers les dimanches de bord de Marne, avec cette gare Bastille qui va être détruite au profit de cet opéra Bastille qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, c'est ça, c'est de montrer que par son action, avec le marteau et le burin, eh bien, on peut élever à la gloire à la fois du président en exercice et puis aussi pour les générations qui suivent, on peut élever des bâtiments qui devraient rester qui devrait, je dis bien qui devrait. C'est ça la différence. C'est que le bilan, il va se faire sur la longue durée. Et cette longue durée, on voit bien que déjà, ça commence à s'effriter.
Mais justement, ouais, c'est vrai.
Parce que si François Mitterrand était un président bâtisseur, il n'était pas vraiment un président architecte. Les anecdotes ne manquent pas concernant le choix parfois malheureux d'un numéro de concours, etc. C'est notamment le cas pour l'opéra Bastille. C'est amusant dans le cas des grands travaux de Mitterrand, c'est que là aussi, quasiment les quatre points cardinaux sont marqués par les bâtiments des septennats de François Mitterrand. Et ça marque aussi autre chose, la naissance d'un plaquage artificiel. C'est-à-dire que avec cette pyramide, qu'on admire la prouesse architecturale de Peille ou pas, devant ces façades du Louvre qu'on plaque une autre façade de verre, une façade de verre, pardon, et au cœur du quartier de la Bastille, qu'on va mettre ce machin monumental en incohérence absolue avec le tissu urbain.
Alors justement, je ne suis pas sûr qu'on puisse opposer sur ce point les bâtisseurs et les architectes, mais je vais essayer de m'expliquer en citant Gadamer et son livre célèbre « Vérité et méthode ». Il dit d'abord « Un édifice ne se réduit jamais à une œuvre d'art ». Il renvoie au-delà de lui-même d'une double façon. Il est déterminé tant par le but qu'il doit servir que par l'endroit qu'il doit occuper dans l'ensemble d'un contexte spatial. Et Gadamer ajoute, l'œuvre doit s'adapter aux données tout comme elle pose ses propres conditions. L'édifice doit s'intégrer à une manière de vivre et ne pas être une fin en soi. Or, il me semble que les architectes contemporains, comme l'a écrit Jacques de Witte, l'architecte contemporain se libère de tout rapport au lieu. Cette architecture se veut désormais délocalisée, susceptible d'être construite n'importe où. Et à cet égard, j'ajoute une citation, c'est Baudrillard disant que Beaubourg, la Villette, la Défense, l'Opéra Bastille et évidemment la pyramide du Louvre, ce ne sont pas des monuments, ce sont des monstres. Ils ne rythment pas la ville et ses échanges, ils sont projetés sur elle, comme des objets extraterrestres, comme des engins spatiaux chus d'un désastre obscur. Et c'est un peu le sentiment qu'on a, c'est-à-dire non plus des monuments surgis du sol et conformes au génie du lieu, mais des édifices tombés du ciel. Et vous parlez de plaquage, et c'est effectivement ce que je ressens personnellement, aussi bien devant l'Opéra Bastille que devant la pyramide. Mes amis veulent me persuader qu'elle est belle, elle me semble jurée avec l'environnement, et vous citez Peille, l'architecte, dans votre livre Jonathan Sixou, à qui on demande s'il aurait construit cette pyramide dans la cité interdite, et il dit sûrement pas.
Jamais de la vie.
Donc voilà, nous faire réfléchir.
C'est l'abnégation du génie des lieux, finalement, que révèlent ces constructions. C'est-à-dire que je réponds à vos citations par une autre citation, c'est Bernard Champignol qui dit que depuis le Second Empire, les architectes ont été remplacés par des ingénieurs. Alors on peut avoir des prouesses architecturales extraordinaires, on peut avoir des gestes, comme on dit, qui sont loin d'être inintéressants, mais pourquoi à tel ou tel endroit? Cette question demeure, et toujours au détriment du cadre urbain, du cadre historique, dans lesquels et pour lesquels, nous dit-on, ils sont bâtis.
Quand vous dites ingénieur, je tique un peu, parce que beaucoup d'architectes aujourd'hui, c'est comme un peu les chefs en cuisine, ce sont des artistes. Ils n'ont plus tout à fait la modestie de l'architecte. Et c'est en tant qu'artiste qu'on les consulte, et c'est en tant qu'artiste qu'ils bâtissent. Mais ce qu'ils bâtissent ici, ils pourraient le bâtir là. La différence entre l'ici et l'ailleurs se perd à travers cette architecture qui se conçoit elle-même comme une œuvre d'art.
Avec ça, pour le coup, alors là, avec des artistes mondialement célèbres, cette question existe. Souvenez-vous quand Jeff Koons a voulu offrir, entre guillemets, son fameux bouquet de fleurs, dont j'ai oublié le nom, ces tulipes multicolores, à Paris, qui est une œuvre monumentale de plusieurs mètres de haut et de plusieurs tonnes. L'endroit où il a voulu le mettre, on ne sait pas encore si ça se fera, mais en tout cas, les idées font que on peut le dire, sans faire rougir tel ou tel membre de l'équipe municipale actuelle, c'est devant le palais de Tokyo, qui est l'une l'un des bâtiments les plus purs de Paris, avec des proportions, peut-être qu'on pourra reparler d'ailleurs du fait que les proportions, tout comme le génie des lieux, ne sont plus respectées. Ce manquement aux proportions, cette abnégation de la pensée d'autrui, de la pensée passée, on la retrouve dans les jardins de Versailles, pour ces expositions d'œuvres monumentales, il n'y a rien de plus pensé qu'un jardin à la française. Il faut penser que, en fonction des longueurs de perspective, des hauteurs et des allées ou autres, les socles des sculptures, les socles des statues, est pensé en fonction même de la taille des statues, pour que de tel et tel point de vue, on ait la perspective voulue. De tout cela, on s'en contrefiche aujourd'hui. Dès lors que vous avez un gros machin monumental à poser, vous le mettez où vous voulez dans le jardin, c'est bien.
Voilà. Le moment de rupture, il a été consommé au moment de la construction de la Tour Eiffel. Finalement, auparavant, les architectes avaient la main sur l'ensemble des constructions, et c'est au moment où on choisit justement de faire cet hommage au centenaire de la Révolution française pour l'exposition universelle de 1889 qu'on le confie à un ingénieur, qui est Gustave Eiffel, et non à un architecte. Et à ce moment-là, on ne reviendra plus jamais en arrière. Et c'est pour cette raison que l'architecte, d'une certaine manière, est obligé de vivre avec l'ingénieur. Et que c'est l'ingénieur qui a la main sur l'ensemble. Donc, ce que l'on va voir ensuite avec Pei, d'une certaine manière, ça va être dans cet esprit-là. C'est-à-dire que l'ingénieur prend le pas sur le reste, et au détriment, justement, de l'urbanisme, au détriment même du lieu dans lequel il s'insère, et que l'on parle ensuite de la tour Montparnasse, ou que l'on parle tout à l'heure, vous l'avez évoqué très justement, le centre Pompidou, le centre Beaubourg, qui était voulu par Georges Pompidou, d'une certaine manière, on aurait pu mettre, d'une certaine manière, tout ce que l'on voulait.
Oui.
Tout ce que l'on voulait. Alors, que ce soit une pyramide ou autre chose.
Mais Paris a pu, je trouve, intégrer la Tour Eiffel, même si elle a fait grincer beaucoup de dents et des temps de peintres, d'artistes, au moment de sa construction. Je ne vois pas comment Paris pourra vraiment intégrer la Tour Montparnasse. C'est une plaie béante dans Paris. Mais justement, j'en viens à la question des proportions. Vous dites que c'est très important. Et il est vrai que Paris est une ville cohérente, une ville harmonieuse, en vertu, semble-t-il, du coefficient d'occupation des sols. Les immeubles ne peuvent pas dépasser une certaine taille, ce qui différencie Paris de Londres ou de Bruxelles. Villes qui ont leur charme, mais villes incohérentes, vraiment, c'est-à-dire désordonnées. Cette harmonie parisienne pourra-t-elle être préservée? Parce qu'il y a de plus en plus de dérogations. On parle d'une tour triangle à la porte de Versailles. Donc, est-ce qu'on en a bientôt fini avec la belle harmonie parisienne, Jonathan Sixou?
Il y a en tout cas, à l'heure où nous parlons, des lois qui sont plutôt, ou a priori, relativement strictes concernant la protection du paysage du centre Paris, de Paris, de Paris intramuros, avec, vous le soulignez, un plafond qui s'élève, je crois, à 37 mètres, mais qui ne doit pas dépasser cette hauteur, qui a été revu en 2010 pour permettre la construction de ces tours. Ce que je note, c'est quand on voit ces projections, ces vues d'architectes concernant ces tours, qu'elles soient au Batignolles, qu'elles soient Pont de Versailles ou autres, c'est toujours magnifique parce que ce sont des tours sans mur ni plancher. Ce sont finalement des tours transparentes, comme s'il n'y aurait jamais rien, et comme si, quand vous ouvrirez vos fenêtres, ce sera encore plus beau qu'avant, finalement, si, malgré que vous ayez un immeuble de 420 mètres sous les yeux. Et c'est ça qui est aussi marquant. On rejoint l'idée qu'on évoquait en début d'émission, qui est la volonté, la motivation. Aujourd'hui, il y a un terme qui revient souvent dans la bouche aussi bien de nos édiles que des architectes, chargés par eux, bien souvent, de réfléchir à la ville de demain. C'est réenchanter. Réenchantons Paris, ça on l'entend souvent. Et donc ce réenchantement de Paris pourrait se faire par un rehaussement des immeubles, à les croire. Je ne sais pas. Le cœur de Paris, a priori, pourrait être conservé. C'est aussi grâce à ça, cette préservation, que Paris est la première destination mondiale. C'est peut-être ce qui causera sa perte aussi. Mais quand vous construisez des tours dans la périphérie de Paris, regardez avec la tour Montparnasse qui est pourtant maintenant dans le 14e, vous êtes en plein 7e, vous la voyez de partout.
Donc, et je ne vois pas en quoi la tour triangle telle qu'elle est prévue pourra réenchanter Paris. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces tours triangles?
Vous mettez toujours des hôtels, des bureaux. Vous mettez maintenant désormais toujours des bureaux, des hôtels, des habitations, quelques logements sociaux pour justifier le. Mais ce sont souvent des bureaux. Un autre projet qui est qui est particulièrement dommageable également au titre de la protection de Paris. Et là, on ne parle pas des hauteurs, mais on parlera peut-être que David Chanterane pourra aussi nous dire comment il voit ça. C'est l'arrière de la Samaritaine. On est à une centaine de mètres du Louvre et la perspective de la rue de Rivoli à ce moment-là va devenir, sous les échafaudages qu'on peut déjà entrevoir en ce moment, des murs vitrés ondulés d'un célèbre cabinet d'architecture japonais, je crois. Peut-être que là, on ne va pas construire une tour à côté du Louvre, mais on va détruire des façades voisines pour les mettre à une sauce contemporaine.
À quoi ?
À une sauce contemporaine, c'est-à-dire...
Et ce sera quoi, cette sauce contemporaine ?
Vraisemblablement, actuellement, c'est l'habillage de verre. Parce qu'on...
Toujours l'habillage de verre, hein. Toujours le verre.
C'est comme ça que ça se passe actuellement.
Et ce seront des magasins, la Samaritaine, ou ce sera autre chose ?
Vous aurez aussi des logements sociaux, vous aurez un hôtel de luxe, vous aurez des bureaux, beaucoup de bureaux. C'est ce mélange, c'est pour reconstruire aussi, de façon quelque peu artificielle, alors dans les tours c'est pire, c'est ce fameux maillage, cette fameuse mixité sociale.
Ah oui, c'est ça.
On reconstitue l'immeuble haussmannien, si vous voulez, mais de façon totalement désordonnée, selon moi.
David Chanterane.
Haussmann avait eu pour projet d'appliquer deux volontés de Napoléon III. La première était justement, on l'a dit tout à l'heure, d'accélérer la circulation. Je vous renvoie vers certaines photographies qui ont été prises notamment en 1860, où l'on voit déjà qu'un 15 août à Paris, il y avait des bouchons dans la ville. Le pont de la Concorde était infranchissable. Le 15 août, il faut imaginer, le 15 août, en 1860-1865, c'était infranchissable. Ce qui prouve bien que la Compagnie Générale des Omnibus, que même avec la construction de ces nouvelles lignes de chemin de fer et de ces grandes gares qui venaient d'être élevées, en particulier par Itorf pour la gare du Nord, par exemple, et que au-delà, avec la petite ceinture qui est en fait, d'une certaine manière aujourd'hui, notre tramway hein, qui circule tout autour de Paris, et bien que, malgré cela, il y avait des difficultés. Donc Haussmann accélère le mouvement, permet une circulation plus grande. Ça, c'est la première volonté. La deuxième, elle est forcément liée, c'est d'améliorer finalement le quotidien du point de vue de l'hygiène, du point de vue de l'aération finalement de la ville. Et ce que l'on cherche au temps Napoléon III, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire de la même manière? C'est-à-dire que en accélérant le mouvement, en faisant que les gens se rencontrent dans des lieux d'agrément, d'une certaine manière, ils sont en train de s'écarter de Paris et on les ouvre dans les extérieurs. Alors, finalement, Paris ne sera plus un lieu de vie. C'est ça qu'on est en train de chercher. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en réalité, on avait une évolution qui était tout à fait dans l'axe de ce qu'avait souhaité déjà Henri IV lorsqu'il devient à la tête de la ville de Paris et que Paris vaut bien une messe. Eh bien, depuis 1950, 1960, on est en train de revenir un peu en arrière et on est en train de rechercher finalement les désagréments que l'on connaissait à la fin de l'Antiquité.
C'est oui, quand même très étrange. On ne les recherche pas, on les retrouve.
À croire qu'on les recherche.
À croire qu'on les recherche. Oui, mais je voudrais, si vous voulez, réfléchir à ce nouvel objectif. Réenchanter Paris. Réenchanter la ville. Il me semble que cet objectif est partagé. Qu'on le voit poindre aussi dans d'autres politiques urbaines, dans d'autres villes françaises. Et notamment, cela débouche sur les rues piétonnières. Les rues piétonnes, c'est ça, ça va réenchanter la ville. Mais ces rues piétonnières ne sont pas ouvertes à la flânerie. Elles sont véritablement livrées à la consommation en guise de vie.
Exactement.
Et dans certaines rues, dans certaines villes, cette consommation va de pair avec le vacarme, parce qu'on entend la musique qui sort des magasins, etc. Oui. Puis il y a de la musique pour des ventes promotionnelles, etc. Donc ce n'a rien à voir avec le plaisir de la ville, le plaisir traditionnel de la ville. Donc je trouve que cette idée de réenchantement est au mieux un leurre, au pire une escroquerie.
C'est toujours un peu périlleux d'évoquer ces sujets sans paraître aux yeux des gens qui ne sont pas d'accord avec vous comme un vieux crouton qui ne sort pas de son formol, etc. Évidemment, Paris est une ville qui évolue, qui a toujours évolué, qui doit continuer d'évoluer. Ensuite, c'est la question, c'est ça qui nous réunit, de savoir pourquoi et comment elle doit évoluer, et si on peut tout de même s'interroger sur la façon dont elle évolue. Avec cette marchandisation de nos loisirs, ce qu'on nous fait passer comme la nécessité déjà pour toute existence d'être une existence de divertissement, de loisirs, et que cela s'alimente même par de la, se doit d'être alimenté par une consommation à outrance, se retrouve aussi dans la consommation, dans la marchandisation du patrimoine. Du patrimoine urbain en l'occurrence, et ça s'accompagne d'une uniformisation, comme ça vous avez vos repères, de même que vous allez dans un centre commercial dans le nord du pays, vous retrouverez le même dans le sud, vous ne perdrez pas vos repères, vous verrez même les mêmes enseignes, etc. Actuellement, la plupart des villes de France connaissent les mêmes esplanades de cathédrales avec ces petits pavés lisses de granit lisse qui ont parfois même la même couleur. Ils proviennent des mêmes carrières désormais. Il n'y a plus même parfois les spécificités géologiques propres à telle ou telle ville. Donc peut-être qu'on s'oriente vers quelque chose de...
Alors c'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez de marchandisation du patrimoine. Or, la nostalgie du patrimoine est aujourd'hui un sentiment très partagé en France. On le voit, la foule qui accourt aux journées du patrimoine. Mmh. Alors, cette nostalgie est-elle dévoyée aujourd'hui par cette marchandisation dont vous parlez, marchandisation en guise de réenchantement, Jonathan Sixou?
Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une confusion. Par manque de clarté d'esprit pour beaucoup peut-être, pensant que c'est bien d'assimiler flânerie historique à commercialisation de ces temps libres, parce que pourquoi pas acheter un jogging en même temps que je vais visiter la cathédrale et voir l'horloge de la cathédrale de Strasbourg, parce que on ne me dit pas pourquoi ce serait mal. Vous voyez, je crois que l'un des mots de au sens général d'ailleurs, qui expliquerait beaucoup de nos maux, serait le mot confusion. Et je pense que là, dans ce domaine-là aussi, la confusion des esprits, confusion des genres, explique...
Et confusion des ordres aussi.
Également.
La consommation et évidemment. L'ordre de l'esprit.
Évidemment.
On recherche aussi dans ce patrimoine dont vous parlez, dans ce patrimoine, finalement, une sorte d'âge d'or. Et cet âge d'or, vous le disiez sous le terme de nostalgie, cette nostalgie, elle s'accompagne aussi d'une certaine redécouverte à chaque fois. Or, ce qui se passe, c'est que on peut très bien accélérer le mouvement et vivre dans une ville ouverte au monde. Ça s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, sans pour autant faire en sorte que l'on mette sous cloche une ville et qu'on la fasse passer pour une ville-musée. Et très étonnamment, c'est pourtant ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, alors que ça n'est pas du tout antinomique. Lorsqu'on parlait tout à l'heure des photos de Marville au temps du XIXe siècle, du temps d'Haussmann, il y avait effectivement une nostalgie. Mais cette nostalgie était faite pour améliorer le quotidien et pour aller plus loin dans le progrès. On s'en souvient en 1900, au moment de la grande exposition universelle que tout le monde a en tête, parce que on se souvient de 1889 pour la Tour Eiffel, mais la grande exposition universelle qu'a connue Paris, c'est 1900. Après les tentatives de Napoléon III de reprise en 55 et 67, après celle de 89, donc celle de 1900 va montrer au monde que Paris est devenue véritablement, à toutes sortes de conscience, la ville-lumière. Ville-lumière par l'éclairage, mais ville-lumière parce qu'elle illumine, parce que c'est dans le sens lumière du XVIIIe siècle. Et pendant ce moment-là, on se pose la question justement de ce que l'on peut faire pour Paris. On va construire le métro, c'est à ce moment-là. La première ligne va être inaugurée au moment de l'exposition universelle. On va faire des trottoirs roulants, on va faire un certain nombre de créations. Et pourtant, ce que l'on ignore, c'est que le lieu le plus visité par les touristes venu du monde entier, ça n'est pas les grandes innovations, ce sera le vieux Paris qui est fait sur les berges de la Seine et qui reprend des constructions qui ont disparu depuis, mais qui sont faites comme une sorte de carton-pâte, une sorte de Disneyland du patrimoine. On a voulu montrer à ces visiteurs ce qu'était le Paris du médiéval, le Paris de la Renaissance. Eh bien, c'est celui-là qui a bien sûr disparu parce que c'était provisoire, celui-là qui était le plus visité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que malgré le progrès, le patrimoine peut être visité, conçu, imaginé, compris, pour justement améliorer le progrès. Donc les deux ne sont pas antinomiques.
Les deux ne sont pas antinomiques. Mais vous avez parlé du tourisme. Et il faut qu'on s'arrête à cette question. Vous énonciez, David Chantrain, le risque de voir Paris se transformer en ville-musée. Vous mettiez l'accent, Jonathan Sixou, sur les dérives de la marchandisation. Mais nous ne sommes pas simplement dans une époque de tourisme, nous sommes dans une époque de surtourisme. Paris Ville Lumière attire de plus en plus de visiteurs. Et le tourisme, ou l'exigence économique liée au tourisme, tout cela est-il en train de changer aujourd'hui le visage de Paris, pour le meilleur ou pour le pire, Jonathan Sixou?
Ça change le visage, peut-être dans un premier temps, au sens propre du terme, puisque du fait de cet afflux massif de visiteurs temporaires, que sont les touristes et les touristes de masse, le tourisme de masse suscite ça plus que jamais, ça change le visage au sens propre, puisque vous êtes de moins en moins de Parisiens, parce que nous parlons de Paris, mais ça peut se retrouver à Venise, ça peut se retrouver à Dubrovnik, dans d'autres villes particulièrement. Elles sont peu dans cette situation-là, mais Paris y figure. Malheureusement, les loyers explosent. Vous avez les locations à la nuit, au mois, etc. par Internet qui le permet très facilement. Et donc, le Parisien finit par quitter Paris. Il y a moins d'habitants à Paris aujourd'hui que sous le Second Empire. Et pourtant, vous avez le changement donc de visage est peut-être celui-là. Vous n'aurez désormais, c'est peut-être l'avenir des villes, le visage des villes à venir ne serait que des visages changeants. Celui des millions de touristes qui viennent.
Le grand remplacement des Parisiens par les touristes.
Un grand remplacement permanent.
Oui, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres changements? Est-ce que les quartiers,
les quartiers
aussi voient leur physionomie, ou quelques quartiers voient leur physionomie modifiée par cet afflux de visiteurs et par le souci justement d'en attirer toujours davantage?
Vous avez des changements. Parallèlement ou directement qui découle de cette situation, mais vous n'avez par exemple rue des Francs-Bourgeois, vous n'avez plus aucune librairie, vous n'avez qu'une brasserie, et sinon vous n'avez que de la fripe, vous n'avez que des vêtements, vous avez toutes les marques possibles et inimaginables que vous retrouvez partout ailleurs dans le monde. Mais la rue des Francs-Bourgeois, par exemple, colle à cette nécessité touristique, nous dit-on. Après, vous avez des emballages qui changent ici ou là, selon les quartiers. On vous mettra davantage des marques luxueuses qu'ailleurs, etc. Mais ce sera généralement la même chose. À Paris, c'est ce changement-là pour l'instant, puisque le tourisme de masse ne pousse pas les murs et ne les surélève pas pour l'heure. C'est les changements que je vois. Si ce n'est après, les embouteillages du 15 août qui peuvent se généraliser, ce ne sont plus des omnibus, mais des Paris Vision et des autocars de plus en plus grands et gros.
Ah oui, les autocars de plus en plus grands, ça je voudrais en dire un mot, parce que ce qui fait rugir à la fois les Parisiens et les habitants de la périphérie, c'est qu'en effet, le transport est entravé, mais qu'en même temps, il y a des bus immenses qui se garent un peu n'importe où, qui sont avec leur couloir criarde d'une laideur extrême. Alors on se dit que voilà, on fait tout pour le tourisme et pour un tourisme qui menace d'enlaidir la ville. Donc ne faudrait-il pas aussi que Paris adopte, pour rester Paris, une autre politique touristique, David Chanterane?
Ça a été fait. Il y a eu des villes pionnières dans ce cadre-là. C'était fait dans de très bonnes conditions et avec de très beaux résultats. Par exemple, Strasbourg a été une des premières à le faire avec des ensembles piétonniers, vous en parliez tout à l'heure, mais également un ensemble de pistes cyclables qui permettent justement de vivre. Et pour autant, les touristes ont été accueillis dans de très bonnes conditions. Et vous le voyez, lorsque vous visitez par exemple la cathédrale de Strasbourg, vous le faites dans de très bonnes conditions. Donc il n'y a pas de difficulté. En revanche, ce qui est plus compliqué pour Paris, c'est que l'accent est mis maintenant, de manière générale pour la France, sur un objectif qui est à peu près à 100 millions de visiteurs sur l'année, et qu'on fait d'une certaine manière le sens inverse, c'est-à-dire qu'on prend les choses de manière inverse à ce que l'on souhaite, c'est-à-dire que on se dit on a un objectif, il faut que tout ça cale et que ça rentre avec sans chausse-pied finalement. Comment faire autrement? Eh bien tout simplement en adaptant et en cherchant la solution là peut-être où elle est la plus simple, c'est-à-dire en faisant des flux simples et naturel. Et non pas en cherchant l'artificiel. L'artificiel, il a été cherché depuis des années 50. C'est-à-dire qu'on se disait, on a un lieu, on va mettre le plus possible de personnes, et on fera en sorte que finalement, ça devienne un succès par la masse. Regardez ce qui était fait pendant les expositions universelles. Ça ne se faisait que par des lieux qui étaient adaptés au public. On savait combien de personnes on allait avoir, et on l'adaptait en fonction de ça.
Oui, mais alors, vous dites le naturel par opposition à l'artificiel. Mais gérer les flux, ça peut être ralentir les flux. Il y a trop de visiteurs à Notre-Dame, apprend-on. Il faut qu'il y en ait moins. Ce qui vaut pour Notre-Dame vaut aussi pour le Pic du Midi ou pour le Mont-Blanc. Il y a trop d'alpinistes. Donc, on en est dans cette... On est arrivé à la situation aujourd'hui où il faut passer à moins de monde. Ou en tout cas, il faut faire en sorte que tout le monde n'arrive pas en même temps dans le même lieu. Est-ce qu'on va y arriver? Et quand on se fixe des objectifs de 100 millions et puis plus tard de 150 millions de touristes, est-ce qu'on ne prend pas précisément le chemin inverse, Jonathan Sixou?
Vous avez d'un côté les responsables qui décident de se fixer, des chiffres, des barèmes, des limites. Mais vous avez aussi les mentalités, je reviens en mentalité aujourd'hui. Peu de gens vous diront qu'ils ont escaladé le Mont Blanc. Ils vous diront, j'ai fait le Mont Blanc. Peu de gens vous diront, je suis allé voir l'Expo de Gare. Ils ont fait l'Expo de Gare. On fait Paris comme on doit faire Rome certains jours dans l'année. Il a été très rapidement intégré cette notion que on se doit de faire des choses. Et donc, c'est possible parce que vous avez une facilité unique dans l'histoire de pouvoir voyager aujourd'hui aussi facilement dans le monde pour faire une grande expo, pour faire une ville.
Donc, il faut essayer...
Il faut dire aux gens
que les changements aillent dans le bon sens, de changer un peu les mentalités.
À mon sens, ça commence par là. C'est-à-dire que on ne fait pas le Louvre, on va visiter le Louvre si on en a le temps. Si on passe deux jours à Paris, peut-être qu'on peut aller voir un tableau au Louvre, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à voir dans Paris si on reste que 48 heures. Vous voyez, c'est aussi ce sens-là qui pourrait peut-être être exploré.
Alors, vous avez parlé de Rome, je voudrais dire quand même qu'à Rome, les autocars énormes, les autobus de touristes sont laissés à l'orée de la ville. Ils n'entrent pas. On pourrait quand même faire de même pour Paris. Après tout, nous avons un service de transport public qui fonctionne plutôt bien. J'accepte, disons, le RER, mais on ne va pas dans ce sens parce que les impératifs économiques liés au tourisme demandent toujours plus. Et le toujours plus va aussi à l'encontre du changement des mentalités que vous préconisez. Et puis je pense aussi à cette autre innovation qui est, et je voudrais d'ailleurs savoir ce que vous en pensez l'un et l'autre, Paris-Plage. Paris-Plage, c'est maintenant un peu comme la fête de la musique. On y aura droit jusqu'à la fin des temps. Ça, je sais pas. Jusqu'à peut-être le moment où le soleil va écrabouiller la planète. Quelques milliards d'années. Et on se dit, mais enfin, Paris n'est pas une plage. Et les gens qui viennent à Paris ne viennent pas à la plage. Et on ne va pas dire que c'est pour réduire les inégalités qu'il faut transformer Paris en plage. Enfin, du moins, c'est l'opinion que j'exprime ici. Mais voilà, qu'est-ce que ça nous dit du nouveau Paris, Paris-Plage, David Chantrane?
Paris-Plage, c'est une réflexion sur l'utopie. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir à une autre façon de penser la ville, avec comme au temps du 19e siècle, avec ces espaces de verdure et de villégiature dans la ville, on a cherché finalement à faire l'impossible. C'est-à-dire que l'utopie se permettait de vivre dans la ville avec une plage qui venait au devant des Parisiens. Or, il s'avère que c'est complètement impossible pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a un problème de circulation. La seconde, c'est qu'il faut, pour qu'il y ait une plage, qui est une mer, ou qui est au moins un lieu pour se baigner. Et la troisième, que tout soit fait pour que ce soit un lieu, un espace où l'on puisse s'exposer au soleil. Ça n'est pas le cas. Vous pouvez pas vous exposer, étant donné qu'il y a des restrictions, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, puisque vous pouvez pas exposer votre corps comme vous le faites sur une plage habituelle. Donc ces trois lieux, à la fois de villégiature et de ces trois réflexions, villégiature, circulation et surtout loisirs, ne sont pas adaptables dans un lieu qui ne l'est pas. Et pourtant, c'est ce que l'on a fait. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, à nul n'est impossible, et donc on cherche à imposer pour montrer qu'on a finalement fait l'impossible. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le Parisien? C'est une frustration. Ça va être une frustration pour celui qui est en voiture, une frustration pour celui qui n'a pas de bonnes conditions pour pouvoir bénéficier des berges de la Seine, et surtout pour celui qui voudrait se baigner. Alors qu'est-ce que l'on cherche? On cherche finalement l'impossible. Et cet impossible, il faut le retrouver, à mon avis, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'adaptabilité de la nature. Cette nature parisienne, elle a été voulue dès les premiers temps. Les hommes se sont installés sur les berges de la Seine. On le sait, on a retrouvé avec l'archéologie les premières habitations, que ce soit à Nanterre ou que ce soit du côté de Bercy. On sait très bien que c'était fait en fonction de la nature. Réfléchissons justement à cette nature parisienne. Qu'est-elle aujourd'hui? Pas uniquement d'un point de vue architectural ni urbanistique, mais qu'est-elle aujourd'hui? Comment doit-on s'adapter en fonction des conditions climatiques et en fonction justement de ces lieux d'habitation?
Oui, c'est ça, s'adapter. Et si on sait où on est, si on sait sur quel sol nous marchons et ce qu'il y a sous nos pieds, on n'a pas à s'adapter, on le sait, et notre façon de penser découlera naturellement de cette prise de conscience que cette ville ne date pas seulement d'hier, mais qu'elle remonte peut-être à avant-hier, si ce n'est un peu plus encore, et que, sachant tout cela, eh bien, on n'a pas à la contraindre, on n'a pas à la violer tel qu'on peut le penser par moment.
Oui, et on peut dire aussi que aujourd'hui encore, la réalité de Paris, les rues de Paris, les immeubles, les édifices, les monuments, les passantes sont plus belles que l'utopie qu'on nous propose. Donc on dit sous les pavés la plage. En l'occurrence, j'aime mieux les pavés de Paris que Paris plage. En tout cas, je vous remercie l'un et l'autre pour cette conversation. Alors, je rappelle, Jonathan Sixou, le titre de votre livre, Rayé de la carte, sur les traces du Louvre oublié. Ce livre est paru aux éditions du Cerf. Votre dernier ouvrage, David Chanterane, s'intitule L'Insulaire. Il porte sur les 9 vies de Napoléon. Il est publié également aux éditions du Cerf.
Et on parle d'île, justement, et de l'île de la Cité. On parle de Paris parce que l'île de la Cité, c'est le lieu où Napoléon s'est fait couronner. Il y a toute une symbolique qui est un lieu très important, justement. Paris, une île et Napoléon.
Très bien. Et j'ai cité Karel Kosik. J'avais publié l'article de Karel Kosik, Victoire de la méthode sur l'architectonique, dans lequel il parle du transport. Je l'avais publié dans Le Messager européen, la revue que je dirigeais naguère chez Gallimard. Ce texte se trouve aujourd'hui dans un livre intitulé La crise des temps modernes, dialectique de la morale, aux éditions de La Passion. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La douleur et la hantise de la maladie d'Alzheimer ». Mes invités seront Mara Goyet et Béatrice Guret. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Déborah Dagobert, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.